Bonjour à tous, ici Stéphanie Desclèbes, c'est moi, et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » et qui est disponible dans les librairies en ligne à partir du 4 mai. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, nous explorons un sens si essentiel dans la vie de nos enfants, le goût. Alice Roca est la fondatrice du projet Alice in Food. Sa passion pour la nourriture, l'art et la transmission forme un cocktail lumineux de recettes pour les grands et les plus petits. Nous avons justement échangé autour de sa vision de l'éducation alimentaire des enfants, de son implication au sein de l'école des roseaux, de l'école comestible, un projet qui l'inspire tant. Je vous préviens, cet épisode va vous mettre l'eau à la bouche. Très bonne écoute. Bonjour Alice.
Bonjour Stéphanie.
Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un épisode de notre podcast autour de l'éducation alimentaire des enfants. Avec tes projets Alice in Food, tu as mêlé plusieurs de tes passions, la nourriture, l'art, l'esthétisme et l'écologie. Tu t'es également intéressée à l'alimentation des enfants. Avec la naissance de tes enfants, je crois, on y reviendra, mais aussi un projet que tu suis de près, l'école alternative des roseaux en pays de Verneuil. J'aimerais, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, que tu nous dises, pour toi, qu'est-ce que c'est la cuisine ?
Alors, pour moi, la cuisine, c'est un peu le cœur de la vie, de la maison, moi, en tout cas, me fait vivre, parce que cuisine, c'est différent de nourriture. Tu as utilisé ce mot cuisine, donc c'est pas tout à fait... c'est pas la même chose. Mais voilà, moi, la cuisine, elle tient une place très importante dans ma vie, parce que elle me permet, de transformer des aliments en plats qui sont comestibles, et elle me permet aussi de transmettre le goût, en fait. Voilà, donc c'est à la fois le partage, c'est la transmission, c'est les goûts, la curiosité et la créativité. En fait, on peut mettre beaucoup beaucoup de choses dans la cuisine. Voilà.
C'est vrai. Et comment est-ce que tu en es arrivée au projet de Alice in Food?
Alors, ça a été assez organique, et ça s'est fait petit à petit, parce que donc j'ai toujours cuisiné de plus en plus, c'est-à-dire que j'ai cuisiné beaucoup en étant petite, ma mère cuisinait beaucoup, tout était fait maison, je cuisinais beaucoup avec elle. Très vite, à l'adolescence, j'ai commencé à faire des repas pour mes parents, pour leur faire une surprise vers 14-15 ans. Donc, il y avait quand même, c'était très présent. Pour Alice in Food, ce qui s'est passé, c'est que j'étais une lectrice de blog de cuisine, j'étais très attirée par ça. Je m'inspirais beaucoup de blogs de cuisine, et forcément ça me titillait un peu d'en faire un, et je me disais, un peu comme beaucoup de choses parfois on a des pensées qui bloquent comme ça, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire à faire un blog de cuisine en plus? Je suis pas cuisinière, ça n'a pas trop de sens. Et finalement, je l'ai démarré vraiment, j'ai démarré le blog quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, en 2014, Alyosha. Et je l'ai fait en me disant, je me fais plaisir. Voilà. Ça a été mon premier, c'est-à-dire d'oser franchir un peu ce cap en me disant, voilà, je me fais plaisir, et en fait, j'ai envie de partager des idées, des recettes. Il faut dire que quand même, mes copains souvent me demandaient, on mangeait très bien chez moi, je crois, et mes copains me demandaient les recettes, ou me demandaient toujours, mais où est-ce que tu trouves ça, et qu'est-ce que tu me conseilles, j'ai 10 copains à manger ce soir, demain à la maison, qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme plat. Enfin, c'était un peu, voilà, dans cette pour répondre un peu à ça, de manière, je sentais qu'il y avait quelque chose en fait là. Voilà. Donc, je l'ai démarré comme ça. Et ensuite, Et ensuite, ça s'est développé vraiment quand je suis venue vivre à la campagne, il y a 6 ans. Voilà.
Pourquoi cela s'est développé avec l'arrivée à la campagne?
L'arrivée à la campagne et mon activité professionnelle qui s'est transformée, qui a changé, puisque lorsque j'habitais à Paris, j'étais styliste de mode et j'étais salariée dans des entreprises, si tu veux, je travaillais pour des marques. Donc, je travaillais quand même 5 jours sur 7 avec des horaires conséquents. Donc, je cuisinais toujours. Bon, ça, j'aime toujours ça, mais je cuisinais tard le soir. Et en fait... en arrivant à la campagne, en ayant une baisse d'activité, puisque j'étais au chômage au début, je travaillais beaucoup moins, et ben, ça a été la porte ouverte à ce que je cuisine plus et que j'ai vraiment fait mon potager. Je me suis beaucoup investie dans mon potager, dans mon jardin. Et voilà, et ça s'est fait assez naturellement de prendre des photos de ce que je fais à manger, de les partager et de développer le compte, notamment le compte Instagram.
Et tu as une approche particulière de la nourriture et de la cuisine. Est-ce que tu pourrais revenir dessus pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ?
Oui, alors je dirais que c'est vraiment... mon approche, elle est bon. Il y a vraiment beaucoup d'intuition et je sais que ça n'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde d'avoir de l'intuition en cuisine et de faire un peu au nez. Enfin voilà, tu vois, de faire un petit peu comme ça selon ce qu'on sent déjà. Donc c'est pour ça que je suis contente. Enfin, j'ai pris l'habitude avec en faisant mon livre de pouvoir noter les proportions pour pouvoir justement transmettre, pour pouvoir donner la recette. Et si on peut la définir, et ben c'est vraiment une cuisine, je dirais, qui est conviviale, qui est généreuse, qui est principalement végétale. Il peut y avoir quelques réminiscences de plats familiaux avec un peu de viande, des petits plats mijotés à la viande ou un peu de poisson. Mais je fais très attention à ma consommation de viande et de poisson. J'aimerais réussir à être végétarienne, mais aujourd'hui, j'arrive pas encore, en fait, parce que j'ai le goût quand même un petit peu de la viande et du poisson. Et inspiré aussi avec les plantes du jardin, les plantes sauvages, les fleurs comestibles. Voilà, ma cuisine, c'est un peu d'arriver à... C'est-à-dire, c'est vraiment pas une cuisine sophistiquée, c'est pas une cuisine de chef, mais je peux vraiment m'intéresser à des ingrédients qui sont parfois peu communs dans la cuisine du quotidien. Je pense à l'ortie, par exemple, qui est une plante que j'aime beaucoup, qu'on a vraiment mis de côté, oubliée, et qui, en fait, est extraordinaire, tu vois.
Parce que ce que je trouve, c'est que tu as une vision très esthétique de l'alimentation, et j'aimerais comprendre pourquoi c'est important pour toi.
alors déjà, on le dit, en fait, si tu veux, quand tu as un joli plat, qui a des couleurs, qui a des textures, évidemment il y a l'odeur, mais le visuel, c'est dans le cerveau le premier message qui arrive et qui fait commencer à saliver. En fait, en général, la vue puis l'odeur font la première étape, en fait, avant de manger, qui te donne envie de manger. Donc rien que pour ça, c'est très important. Et je dirais que là-dessus, sur le côté visuel, autant j'ai une vraie... Je suis styliste de mode à l'origine, tu vois, comme je te le disais, donc j'ai vraiment un sens esthétique, c'est-à-dire que j'ai une quête de la beauté, de la poésie, des couleurs, des matières, enfin il y a quelque chose comme ça qui m'anime depuis toujours dans le dessin, dans l'art, enfin dans tout. Et je peux te dire que, par exemple, dans ma cuisine, j'y suis arrivée petit à petit parce que je me souviens d'avoir fait comme ça, mais il y a très longtemps, quand j'étais en colocation à Paris, un tiramisu qui était excellent, mais mes colocs m'avaient dit, il donne pas très envie, quoi, parce que c'était un gros plat, un gros truc. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment travaillé, en fait, tu vois. Et je me rends compte que ça fait la différence dans la façon dont on mange, en fait.
Et est-ce que c'est la même chose pour les enfants ?
Tu veux dire de soigner la présentation ? Bien sûr, c'est évident. Je crois que c'est vraiment... Ça change énormément. Leur perception, le fait de donner envie. En fait, tu donnes envie comme ça visuellement. Si t'as une espèce de pâté, de quelque chose un peu informe dans l'assiette, bah forcément, ça va moins te donner envie que si tu vois des petites couleurs, des petits fruits coupés, tu vois. Enfin, c'est pour moi, c'est vrai que ça peut paraître un peu futile ou un petit peu, mais en fait, je crois que c'est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on peut croire.
Et justement, j'aurais aimé savoir, dans tout ce projet, comment est-ce que tu as intégré l'éducation alimentaire des enfants ? Est-ce que c'est venu de la naissance des tiens ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait depuis un certain moment ?
Je crois que c'est vraiment un effet d'avoir des enfants, clairement. Ça, c'est sûr. Ou en tout cas, je n'avais pas... je pense que moi-même, j'ai été éduquée avec vraiment ce bon sens et cette façon, ce que je te disais quand ma mère faisait tout maison, c'est-à-dire que vraiment dans nos placards, dans le congélateur, il n'y avait pas de plat cuisine et ma mère, vraiment, c'était tout partait des produits bruts. Donc moi-même, j'ai été éduquée comme ça, avec à la fois ce côté vraiment plutôt sain et plutôt bien fait. Et cette curiosité aussi, on y reviendra peut-être, mais ma mère avait vraiment cette curiosité aussi des choses différentes, d'essayer des choses, d'essayer des recettes, etc. Et donc tout naturellement, je crois, quand moi j'ai eu mon premier enfant, et quand on commence à donner à manger, enfin mes enfants, aucun de mes enfants n'a mangé de petits pots. C'est pas du tout une... Je ne jette pas la pierre à ceux qui donnent des petits pots, tu vois. Il se trouve que moi, j'avais vraiment, ça me tenait à cœur et j'avais l'énergie pour faire moi-même les premières purées et puis les premiers plats. Et en fait, ça m'amusait aussi de faire découvrir des goûts, de voir les réactions, de voir ce qui se passe quand, tu vois, j'ai vraiment fonctionné à l'instinct. Et comme je faisais moi-même, je cuisinais tout maison, ça me coûtait rien. Je trouve que ça ne coûte pas grand chose de faire une petite purée de carottes qui prend 5 minutes. Et alors, le seul moment qui est un peu plus compliqué, c'est quand tu pars en voyage. Mais même là, je crois que j'arrivais à me débrouiller, tu vois, et à faire plein de choses maison. Donc, ouais, vraiment, ça s'est fait avec au contact de mes enfants et avec l'envie de transmettre les bons goûts, les bons produits et des produits, pas transformés, quoi. Petite anecdote, c'est que le problème dans ces cas-là, c'est que le jour où tu es en galère et tu as besoin de donner un petit pot à ton enfant, je crois que j'en avais toujours un ou deux, ou en voyage, ou je sais pas quoi, là, bah, ton enfant n'en veut pas du tout. Donc, c'est le seul inconvénient à cette façon de faire.
Tu m'étonnes, tu les éduques au goût ouais. Dès le plus jeune âge.
Oui, mais tu vois, je fais une parenthèse. Et elle est quand même importante. Mon fils aîné, qui aujourd'hui a 13 ans et demi, mange mal. Je peux te dire qu'il mange très mal. Et c'est quelque chose qui, pour moi, et c'est vrai que c'est quelque chose. Je le mets sur le compte de et l'adolescence et l'opposition et plein de raisons. Il y a de multiples raisons, tu vois. Je vais pas tout raconter, mais malgré le fait de lui avoir vraiment, c'était un enfant qui mangeait tout, qui a mangé tous les légumes toujours. Là, arrivé vers 12 ans, il y a vraiment un changement brutal que je ne peux pas contrôler, aussi parce qu'il est pas à la maison, il est chez son père, tu vois, aujourd'hui en semaine, je me dis peut-être que ça reviendra, qu'il aura quand même la mémoire de cette bonne éducation alimentaire, mais c'est quand même c'est pas une route comme ça, un chemin aussi simple, voilà, c'est ça que je veux dire.
T'as raison de le souligner.
Ouais.
J'aurais aimé aussi que tu nous partages qu'est-ce que c'est pour toi une bonne éducation alimentaire.
Je crois que c'est moi, je pense vraiment à l'ouverture. Ce qui me vient comme mot, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la curiosité. Et c'est aussi de ne pas être une ayatollah, de pas être dans les extrêmes. Je crois que, et si quand t'es dans les extrêmes, c'est-à-dire que pour moi, si tu éduques tes enfants en étant végétarien à 100%, extrêmement, enfin, tu vois qu'il y a une grosse pression, il y a un gros enjeu autour de la nourriture, mais un peu de manger très 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 sain, de faire. Je pense que c'est trop, en fait, c'est trop pesant. Donc, je suis convaincue qu'il faut de tout. Que le principal, l'essentiel, évidemment, doit être des légumes, des céréales, des bonnes habitudes, c'est-à-dire évidemment pas de boissons sucrées à table, pas de le moins possible de bonbons, enfin tu vois tout ça, mais de pas interdire des choses parce que pour moi ça crée des frustrations qui après peuvent être des espèces de un lâchage incontrôlé. Donc j'achète, je fais beaucoup de goûter maison, de biscuits maison, par exemple, tu vois, pour les goûter, mais de temps en temps, en vacances, quand on part, je sais pas, on prend la voiture, on va quelque part, de lâcher ça, quoi, et d'autoriser un paquet de bonbons et des biscuits industriels. Et tu vois, et je veux pas, et même, bon, et j'ai envie de dire, je pousse exprès le trait, et même le McDo, tu vois, même si j'ai horreur du McDo, je déteste ça, je veux pas que ce soit un fantasme pour mes enfants, tu vois.
Je comprends. Voilà.
Bon, c'est pas, j'aime pas les années au McDo, et ça arrive de temps en temps en voyage, mais c'est vrai que, bon, voilà. Je crois vraiment à ça dans la bonne éducation, c'est-à-dire de laisser les en fait finalement aussi c'est que chacun a un peu sa responsabilité et son libre arbitre, tu vois, et que tu peux pas être dans la maîtrise et dans le contrôle total de la parfaite éducation alimentaire, quoi, tu vois.
Est-ce que tu communiques beaucoup autour de l'alimentation, des saisons, des produits locaux, de l'écologie, etc., de tout ce domaine autour de la nourriture? Est-ce que tu essayes également de le transmettre via des échanges avec tes enfants?
Alors j'essaye, oui, parce que je crois que après j'essaye, c'est-à-dire que c'est dans mon discours et du coup ils l'entendent. Il y a vraiment, je crois, et des idées et des actes en fait qui sont intégrés parce que les enfants sont dans le mimétisme ou dans l'opposition. Donc, tu vois, avec mon fils aîné, c'est aussi donné ça. Mais en tout cas, on va dire avant l'adolescence, dans ce mimétisme, les enfants intègrent et des gestes et des façons de faire. Je dirais que c'est très présent. Et encore une fois, je ne veux pas non plus les plomber avec... avec une éco-anxiété qui parfois me pèse, me traverse. Donc oui, tu vois, il y a vraiment le discours, il est là, et je crois qu'il y a des choses qui sont intégrées. Et je pense aussi que ça dépend de la personnalité des enfants, parce que j'ai 3 enfants, et je crois que chacun à leur manière, ils se saisissent ou pas de ces idées, de ces gestes. Je sais que mon fils cadet qui a 7 ans, il est extrêmement sensible au sujet. Et donc, il y a vraiment, je sens que ça, on peut échanger avec lui. Enfin, tu vois, il peut, mais ça, je fais attention parce que ça peut aussi virer sur le côté éco-anxieux que je ne veux pas, comme il est extrêmement sensible, je veux pas non plus que ça bascule là-dedans, tu vois.
Ouais, je comprends. Il y a un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est l'implication des enfants dans la réalisation des repas, que ce soit à l'école ou à la maison. Et j'aurais bien aimé que tu nous partages ton projet avec les écoles autour de l'éducation alimentaire, de l'école comestible, etc. Et que tu nous expliques ce que tu fais avec ce projet.
D'accord. Alors la chance que j'ai quand même, c'est d'avoir ma femme Lital qui s'est investie, qui fait partie du vraiment du... du noyau de l'association qui a créé l'école alternative des Roseaux, qui est donc à côté de chez nous, à la campagne, qui a ouvert l'année dernière, en septembre 2021. Et pour moi, donc moi j'y interviens une fois par mois avec un atelier de, alors on peut dire de cuisine et plus pompeusement d'éducation alimentaire, mais je l'appelle toujours atelier de cuisine. Donc je viens une fois par mois, une matinée, pour cuisiner avec les enfants. Et l'idée est venue du fait déjà que je fasse de la cuisine, de l'idée, c'est une école donc qui fait beaucoup de cours, qui va dans la nature, ils sont près de la forêt, enfin voilà, c'est vraiment une école alternative qui s'inspire de plein de méthodes différentes et qui est aussi en devenir, hein, elle a qu'un an, donc elle est très très jeune. En gros, aujourd'hui, la cuisine, à l'école, on fait plus de cuisine à l'école, c'est-à-dire que ça n'est plus, non seulement c'est une aberration parce que c'est comme ça qu'on apprend les goûts, qu'on transmet, qu'on apprend voilà les à connaître les produits, à connaître les légumes, etc. Mais en plus les enfants adorent. C'est quelque chose, c'est un moment, ils attendent. Enfin, si je pouvais venir une fois par semaine, ça leur irait très bien. Malheureusement, je peux pas tenir ce rythme-là. Et en fait, moi, je m'intéressais déjà beaucoup à l'association qu'a fondée Camille Labro avec plein de gens qui s'appellent l'école comestible. Donc, je suis en lien avec l'école comestible. Je fais pas partie de l'école comestible, mais je suis toujours en lien avec ce qu'ils font. Et je me suis inspirée vraiment de cette idée et de ce qu'ils font pour créer des ateliers que je fais avec mes moyens, à ma sauce, avec mes idées. Et d'ailleurs, en fait, comme à chaque fois, je fais référence à l'école comestible quand je diffuse sur les réseaux mon travail avec mes ateliers avec les enfants, on échange de plus en plus avec l'école comestible. Je sais que l'année prochaine, je vais aller faire un atelier à Paris, enfin en Île-de-France, avec eux. Je voudrais plus échanger des recettes avec eux, des recettes que je fais, des recettes qu'ils font, etc. On a déjà échangé sur la question. Et donc le travail, c'est quand même, on en revient à l'ouverture d'esprit et à pouvoir faire aimer des choses différentes et sortir peut-être de eux ce qu'ils mangent aussi. C'est pas le cas pour tous, mais c'est quand même une découverte des goûts, des aliments, des saisons. Et donc j'ai essayé cette année, pour ma première année, de faire pratiquement que des préparations légumières ou plutôt du côté salé. J'ai fait une fois à Noël des biscuits sucrés. Mais c'était pas du tout dans le truc des gâteaux. Les gâteaux, c'est super, c'est très bien. Mais c'était plutôt d'arriver de leur faire faire des pancakes, ce que j'appelle mes pancakes verts, donc avec des fans de légumes. Là, par exemple, l'atelier. J'arrive avec mes fans de betteraves, mes blettes. Les trois quarts des enfants me disent qu'ils n'aiment pas les légumes. Et qui n'aiment encore moins les légumes à feuilles, tu vois. Et ils repartent. Et pour moi, là, c'est des petites victoires intérieures. Ils repartent avec. Ils me disent est-ce que on peut avoir la recette pour que ma mère. C'est souvent ma mère d'ailleurs qui ressort pour que ma mère refasse la recette à la maison. Et encore mieux quand je reviens la fois d'après et que je vois dans leur lunchbox mes recettes qui sont refaites par les parents et qui sont dans leur petite lunchbox. Donc voilà. Donc ça, c'est des mini victoires en fait. Enfin, tu vois, il y a vraiment, tu sens que c'est quelque chose de petit, mais qui en fait éveille les enfants et les ouvre à cette bonne alimentation, je dirais.
Parce que qu'est-ce que tu observes comme bienfait autour de ces ateliers en dehors de ces découvertes? Je suppose aussi que c'est assez intéressant au niveau du collectif, comment organiser des ateliers sans que ce soit la pagaille, qu'ils soient bien qu'ils soient bien concentrés, tous impliqués.
Écoute, alors ça a été un gros chemin que j'ai fait cette année et je me suis vraiment confrontée à plein de difficultés puisque j'avais zéro expérience en la matière. J'étais vraiment novice et au bout de 2 ou 3 ateliers, j'ai échangé un peu avec l'école comestible qui m'a donné quelques petites clés qui m'ont aidée, notamment sur le fait d'avoir 2 adultes pour 6 enfants. Donc j'ai partagé tout en demi-groupe alors qu'au début j'avais beaucoup plus d'enfants, j'étais pas très bien accompagnée. Voilà, c'était quand même pas évident. Que c'était aussi le début de l'école, ils étaient eux-mêmes dans un moment de transition pour eux en fait, avec voilà des manières de faire différentes de leur école précédente, etc. Donc je dirais c'est que j'ai appris à canaliser vraiment en effet leur énergie, que j'ai compris aussi parce que c'est aussi c'est une école qui regroupe des enfants qui ont certaines difficultés, qui sont atypiques. Voilà, c'est pas pour rien que ces enfants viennent et que les parents ont mis ces enfants dans cette école. Et je dirais qu'avec de la créativité, j'ai réussi. Il y avait un enfant comme ça avec beaucoup beaucoup d'énergie, une grande tension. Par exemple, je me souviens lui avoir fait battre les blancs en neige à la main parce que je sentais qu'il fallait lui donner quelque chose comme ça de costaud et que ça canalisait son énergie. Voilà. Donc, encore une fois, moi, c'est, je pense, beaucoup moins... j'ai pas les moyens de l'école comestible, si tu veux. Donc, c'est vrai que c'est... voilà, je me fais toujours... Je suis organisée pour toujours avoir une personne avec moi. Et maintenant, je commence à avoir un peu ce sens, c'est-à-dire se dire bon ok alors là il faut que lui il a cette personnalité, c'est aussi la connaissance des enfants qui va me donner un peu une manière de les gérer. Ce que toujours je constate pour la plupart, il y en a qui arrivent, il y en a une qui dit qu'elle aime pas cuisiner, qu'elle aime pas, bon ça l'intéresse pas trop, mais je finis toujours quand même un peu par lui faire faire quelque chose qui l'intéresse. Mais sinon dans l'ensemble ils sont plutôt très excités et très joyeux à l'idée de faire l'atelier cuisine. Donc, ils sont quand même plutôt réceptifs. C'est vraiment... Le sujet, c'est plutôt de les canaliser.
Ouais.
Donc, c'est... Ouais, j'imagine. Râper des choses, enfin, voilà, des choses comme ça.
Ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'école comestible, je sais que tu n'en fais pas partie, mais si tu peux juste dire quelques mots sur ce que c'est.
Alors, l'école comestible, c'est une association qu'a fondée Camille Labro et qui s'attelle à, en gros, transmettre, développer et transmettre l'éducation alimentaire, apporter l'éducation alimentaire dans les écoles. Bon, j'en parle pas aussi bien qu'elle n'en parle. Elle-même s'est inspirée de Edible School en Californie, d'une chef, d'une cuisinière qui est... J'ai envie de dire que c'est Alice Waters, peut-être, je sais plus. Bon, en tout cas, qui s'est inspirée de cette association américaine qui, en fait, intervient dans les écoles à faire des ateliers d'éducation alimentaire, mais aussi, c'est pas que cuisiner, c'est créer des potagers, faire venir des maraîchers qui parlent des légumes, des saisons, parler des épices, de la graine, je te dis n'importe quoi, tu vois, le pain, ça peut être vraiment expliquer de la graine au pain. C'est vraiment toute la chaîne alimentaire et de l'amener dans les écoles. Et ils ont beaucoup maintenant, c'est de plus en plus gros et ils ont beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de volontaires qui tiennent les ateliers, qui sont encadrés par des responsables. Et en fait, ils ont beaucoup d'écoles dans lesquelles ils interviennent. C'est faire revenir cette éducation alimentaire dans les écoles. Parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, ça commence là. C'est-à-dire que et le en fait de bien manger, de savoir bien manger, c'est comme ça qu'on va pouvoir fondamentalement sauver la planète, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de, en fait, parce que bien manger et manger en conscience et réfléchir à ce qu'on mange, c'est comme si c'était tout un mouvement, en fait. Si on se met à, si dans la paysannerie, il y a cette, voilà, cette vague et du maraîchage bio ou en sol vivant ou de la permaculture ou tu vois tout ça c'est lié en fait, c'est-à-dire que plus on va aller vers une alimentation saine et vivante, voilà, plus le monde ira mieux quoi en fait, tout simplement.
Mais oui, c'est certain.
L'ambition,
c'est vraiment un super projet.
Ouais, c'est un magnifique projet et je trouve que l'ambition elle est très grande, mais je elle me parle. Je suis complètement d'accord avec ce propos, quoi, avec cette idée.
On arrive déjà à la fin de cet échange. J'aurais aimé que tu nous partages tes derniers conseils pour les parents ou les enseignants qui nous écoutent autour de l'éducation alimentaire des enfants. Tu as dit beaucoup de choses, mais peut-être que tu aurais une ou deux choses à rajouter avant qu'on se quitte.
Écoute, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, je dirais que... les enfants sont beaucoup plus comment dire, c'est pas curieux le mot, mais on parfois en fait on se dit ah non on va pas faire ça pour les enfants, ils vont pas aimer par exemple, et on se le dit avant même de leur proposer. Et je prends l'exemple des épinards chez nous, tu vois, ou du chou, enfin de ces légumes qui sont souvent mal aimés. Parfois, ça vient aussi des parents qui n'ont pas. Alors peut-être qu'ils ont fini par aimer, tu vois, un peu plus grand ou pas. Mais c'est très compliqué déjà quand même de faire aimer quelque chose que toi-même tu n'aimes pas. Bon, ça, on peut pas faire grand chose. Mais je dirais que c'est de pas trop se limiter. Et je vois chez moi les épinards, parce que je cuisine les épinards la plupart du temps, soit qu'ils viennent de mon potager, soit que j'achète à mon maraîcher des épinards frais que je cuis très peu. Une petite tombée d'épinards avec un filet d'huile d'olive et du sel ou un petit peu de beurre de micelle pour la gourmandise, enfin voilà, au choix. Les enfants adorent, en fait, si très très tôt tu leur donnes ça. Donc moi, je dirais que c'est vraiment de beaucoup moins se mettre des barrières, en fait, et de d'oser, parce que c'est tout petit que ça commence. Et je vois, voilà, mon dernier enfant qui a 2 ans, elle mange de tout. Je pense quand même que ça vient de cette proposition qui est là et qui est très variée. Donc moi, j'irais plutôt vers quelque chose de varié et de pas se dire « Ah, ils vont pas aimer ça. Ah, le chou. Ah non, le chou, c'est pas pour les enfants. Non, on va faire simple, on va faire les pâtes, etc. Ah, moi, le mien, il aime pas ça. » Oui, mais en fait, il faut s'interroger là-dessus aussi. Comment on qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants ? Mais encore une fois, c'est une démarche. Il faut avoir envie de cette, tu vois, de ça et considérer que c'est important. Voilà.
C'est vrai. Et ben merci beaucoup pour ton temps et bravo pour tous ces beaux projets. Et j'invite vraiment nos auditeurs à aller voir ce que tu fais, Alice in Food.
Merci,
ça donne tellement
beaucoup.
Envie.
Merci beaucoup Stéphanie, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
À très bientôt, au
à
revoir.
À bientôt, au revoir.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaies.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, Si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.